Merci beaucoup à tous d'être venus. Nous aujourd'hui accueillons Maurizio Ferraris, philosophe italien, dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation Maison Sciences de l'Homme, Collège d'études mondiales. Le titre de la conférence, Une raison pratique pour la web, pointe vers notre rapport, un rapport pas vraiment réglé, avec le web, le numérique, la connexion permanente et titre du livre de Maurizio Ferraris qui vient d'être publié en France, La mobilisation totale. Je pense que nous aurons aujourd'hui la possibilité de comprendre le rôle que cette connexion et la mobilisation totale jouent dans cette espèce d'angoisse contemporaine, d'incertitude aiguë qui caractérise notre temps. Qu'est-ce que cela veut dire pour nos démocraties? Et je pense au tweet nocturne du président Trump, le rapport avec les fake news relayés par les sites web, le rapport avec l'idéologie et le capitalisme irresponsable, la propagande des régimes autoritaires et à quel point on peut comparer cette révolution technologique et de mode de communication avec l'émergence de la radio et de la TV il y a un siècle. Pas pour la TV. Le philosophe Daniel Dennett, en interview à un journal anglais ce week-end, parlait d'une espèce de transparence radicale apportée par la technologie digitale, une transparence qui enlève les membranes et qui protégeait toutes les institutions humaines, du gouvernement à la religion, des banques au mariage. Tous les systèmes de civilisation sont en risque à cause de cette nouvelle transparence absolue. Et cela nous amène également à la question de la confiance et à notre rapport avec la vérité. Je pense que Maurizio Ferraris sera en condition de nous éclairer un peu sur ces questions et je veux lui remercier d'être là ce soir. Et évidemment, remercier à Olivier Bouin, à Sarah Guinani et à toute l'équipe du Collège d'études mondiales. Bonne conférence, je passe la parole à Olivier Bouin.
Merci Miguel. J'étais là il y a 10 jours pour présenter la conférence de Alexis Nusselovici sur exil et migration. Mais ça me fait très plaisir de revenir, comme à chaque fois ici, pour continuer notre partenariat entre la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et la Fondation Kallouss Gulbenkian. Et ça me fait particulièrement plaisir ce soir, c'est pas une formule, de vous présenter rapidement Maurizio Ferraris, parce que c'est surtout lui qu'on a envie d'écouter ce soir. Donc Maurizio est professeur de philosophie, d'esthétique d'abord, puis de philosophie théorique à l'Université de Turin. Il est directeur du laboratoire d'ontologie, qui s'appelle Labont, et du centre interuniversitaire d'ontologie théorique et appliquée. Il est également chercheur associé et titulaire d'initiatives de recherche sur la documédialité qu'il entend comme une analyse des nouvelles formes d'archivage, de classification et d'accès aux documents scientifiques. Un projet qu'il développe dans le cadre du Collège d'études mondiales et qui ouvrira de nouvelles perspectives dans les prochains mois et les prochaines années d'une collaboration entre nous. Au début des années 80, il a été formé aux côtés de Gianni Vattimo, qui était un grand philosophe italien de Turin. Il a également travaillé avec Jacques Derrida à Paris, avec Hans-Georg Gadamer à Heidelberg. Et il a été souvent à Paris. D'ailleurs, tu t'exprimeras en français ce soir. Il était notamment directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Maurizio qui, depuis quelques années, a engagé une nouvelle étape, je dirais, majeure de sa réflexion philosophique avec la publication d'un ouvrage important en 2009 chez La Terza, en Italie, qui s'appelle « Documentalità, perché è necessario lasciar tracce », qui veut dire « documentalité ». C'est un ouvrage qui n'est pas encore disponible en France. On souhaiterait que, puisqu'il y a eu beaucoup d'ouvrages qui ont été traduits de 3 ou 4 très récemment, et c'est très heureux que ton œuvre soit disponible et lue en France. Mais cet ouvrage, comme je sais que Sarah me le disait à l'instant, comme tu souhaites reprendre certains éléments, on attendra la seconde édition, la seconde version pour le publier en France. C'est vraiment un ouvrage vraiment majeur, parce que dans cette réflexion, Maurizio confère aux documents une position centrale dans la sphère des objets sociaux qui sont entendus comme des objets de réalité autonomes et distincts des objets physiques ou idéaux. Et l'importance de l'inscription est un trait caractéristique de la documentalité et en général de l'ontologie sociale pour produire un objet. Il n'est pas suffisant que l'acte soit déclaré, il est nécessaire qu'il soit enregistré. Et pour Maurizio, à l'ère de ce que tu appelles l'hyper-enregistrement, il est impossible de se soustraire ou de ne pas répondre à l'appel du smartphone, ce que tu as décrit dans un ouvrage que rappelait Miguel, « Mobilisation totale, l'appel du portable », qui a été publié heureusement en France aux presses universitaires de France en 2016, et qui faisait déjà suite à un ouvrage sur l'ontologie du téléphone mobile qui s'appelait « T'es où ?», qui a été publié en 2006, il y a 10 ans, chez Albin Michel. Et donc, il nous propose aujourd'hui de réfléchir à une raison pratique pour le web, ce qui renvoie aussi à ta grande connaissance de Kant, puisque tu avais écrit « Goodbye Kant », ce qu'il reste aujourd'hui de la critique de la raison pure. Là, tu nous proposes une raison pratique. C'est un ouvrage qui avait été publié en 2009. Je souligne également un colloque très intéressant ou une journée d'études passionnante ce jeudi, dans 2 jours, au Collège des Bernardins, qui s'appelle « Vérité et post-vérité en temps du web », avec un certain nombre d'intervenants français, européens et internationaux. En ces temps particulièrement troublés, je répéterai pas ce que disait Miguel, ce colloque, qui sera suivi d'une autre journée d'études en mai, devrait permettre d'avancer dans la réflexion à la fois analytique et conceptuelle sur un des enjeux majeurs de nos sociétés contemporaines, que je formulerai en te réinterprétant de la manière suivante, une forme de servitude volontaire qui serait aux antipodes de l'intentionnalité collective comme un facteur de construction de la réalité sociale. Et je pense que c'est un objet, alors c'est peut-être un peu jargonneux, mais ça demande justement réflexion, ça demande d'y réfléchir attentivement. L'œuvre de Maurizio nous y invite, avec un certain nombre de collègues, philosophes notamment, mais également experts des médias, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je pense que le filon et le sillon que tu as creusé est particulièrement important et intéressant, et on est très heureux de cette collaboration que tu as décidé d'engager avec nous et que nous avons décidé d'engager avec toi pour les prochaines années au Collège d'études mondiales. Je vous remercie Miguel et la Fondation une fois de plus, et la parole est à toi, je crois, pour 40 minutes.
Que faire pour expliquer la... C'est vraiment un peu trop. On a trouvé un prof qui parlait de la raison pratique. Il y en avait déjà une autre et c'était bien avant le web. Alors, pourquoi penser une raison pratique pour le web? Disons que, pour dire la chose vite, peut-être que, regardez, lorsque les gens, depuis dans 50 ans, imaginons, dans 50 ans, les gens regarderont un autre rapport au web maintenant. Et ça sera comme regarder une auto des années 50, très dangereuse, très polluante, comme si on n'avait pas réfléchi sur la véritable nature de l'objet qu'on a. Donc, ça pourra sembler très pessimiste, mais en vérité, je considère optimiste. C'est cette perspective. Donc, la chose va se partager en trois. Et je commence par une étude de cas qui se rattache à ce dont on va parler dans cette journée, donc parler annoncée par Olivier Bouin, c'est-à-dire la question de la post-vérité. De la question de la post-vérité comme cas empirique, j'essaierai de exposer une théorie, c'est-à-dire la théorie que je suis en train d'élaborer maintenant grâce à l'hospitalité qui m'a été faite par le Collège d'études mondiales sur la documédialité, c'est-à-dire le fait qui se présente maintenant que les documents ne sont pas seulement des choses en papier qu'on trouve parfois, qu'on fait exprès, comme c'était dans la tradition, mais c'est quelque chose d'omniprésent et qui se produit à tout moment, qui produit donc des effets d'inflation, d'impossibilité de vérifier le contexte, et donc justement de créer ces effets de post-vérité dont on parlait. Et pour finir, la perspective, c'est-à-dire la raison pratique. Est-ce qu'on peut trouver une raison pratique pour tout cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre ce qui se passe? Juste des suggestions, c'est-à-dire c'est le commencement d'un travail. Je m'excuse d'abord avec le public si le font, le caractère change d'un slide à l'autre. Ce n'est pas par paresse, simplement en passant d'une ambiance web à l'autre, quelque chose a changé. Non, puisque autrement, ils ne se sont même pas pris la peine d'utiliser, de mettre un font. Je sais que le public est exigeant, il a raison. Alors, je commence avec l'étude de cas, celui de la post-vérité. Voilà, évidemment, vous savez, là, c'est un cas récent qui nous raconte qu'il y a eu une nouvelle selon laquelle il y a eu la fuite de nouvelles portant sur Trump a été causée par... par des bugs dans le système de contrôle de Android, mais le problème c'est que c'est faux. Donc il y a maintenant une probablement faux. Et donc maintenant il y a cet disclaimer, pour ainsi dire, qui dit que cette vérité est peut-être fausse. Donc méfiez-vous de ce type d'information. Notez, je ne suis pas sûr que ce type de remède, qu'en fait semble être le seul possible, pourra être effectivement efficace, puisque on a remarqué que toutes les fois qu'on conteste une fausse vérité sur le web, ce qui reste, c'est précisément la fausse vérité. Donc, ça produit une croissance de la fausse vérité. C'était déjà quelque chose qu'on apprenait aux gens durant à l'époque des journaux. Déjà, on peut parler de jamais donner une démentie, puisque la démentie sera la répétition de la nouvelle. Donc, par exemple, on avait cet homme politique en Italie, Giulio Andreotti, qui ne donnait jamais de démentie sur la base de ce type d'affirmation. C'est qu'en plus, c'était astucieux, puisque parfois, il pouvait démentir, parfois pas. Donc, c'était très bien. Alors, mais là, donc, ce sont des remèdes pratiques, des remèdes problématiques et un peu simplistes. Voyons donc que pourrait être l'horizon de la post-vérité. Là, je dois prendre un peu de recul, mais ce sera très bref, et c'est revenir au postmodernisme. Ce que vous voyez là, c'est un grand philosophe américain, peut-être l'un des plus grands philosophes américains du siècle passé, Richard Rorty, qui a écrit, selon moi, les plus belles interprétations philosophiques du postmoderne, en particulier dans un grand ouvrage de 1979, La philosophie et le miroir de la nature, dans lequel il donnait vraiment une interprétation philosophique du postmodernisme. Et il disait d'abord que le postmodernisme, c'était une ironisation. Le problème, c'était pour lui de dire ceux qui croient trop en la vérité, qui ont une attitude fétichiste, quasiment fétichiste pour la vérité, ont le risque de devenir des fanatiques. Donc, il faut toujours avoir un rapport ironique de détachement par rapport à ses propres affirmations. Notez que apparemment il y a une justification édipienne, parce que ces deux parents, normalement on a deux parents, mais ces deux parents étaient tous les deux trotskistes, très véritatifs. Et donc peut-être que la théorie ironique, c'était la réaction de Rorty par rapport à ses parents trotskistes. Mais en tout cas, évidemment, il y avait pas mal de gens avec des parents trotskistes dans le monde postmoderne, puisqu'enfin, cette idée d'un rapport ironique à la vérité a pris a tenu un rôle très important, surtout dans l'ambiance académique à l'origine. Et sur cela, il faudra revenir, puisque c'est important. Puis, il y avait l'idée de la désublimation, c'est-à-dire le fait que comme la raison était interprétée comme un fait de domination, d'imposition rationnelle, alors c'est plutôt le désir ou quand même le refus de la raison qui pourrait être la véritable émancipation. Ça n'était pas vraiment le cas de Rorty, mais c'était le cas d'auteurs spécialement imaginés de Deleuze et Guattari, toute cette philosophie qui pointait beaucoup sur l'idée de révolution désirante durant les années 70. Et pour finir, la déobjectivation. Déobjectivation, c'est dire l'objectivité comme la vérité est une forme de fétiche. Rorty avait des arguments extrêmement convaincants, c'est-à-dire, il disait, mais nous sommes toujours dans le sillon d'une tradition qui est socratique et puis des Lumières qui nous dit que avoir rapport à l'objectivité, c'est un mérite moral qui fait que l'objectivité soit une valeur en soi. Mais il se trouve quand même, dit Rorty, que c'est plus important pour la vie sociale la solidarité. Rorty était un pragmatiste, et là on voit très bien le bien fondé du pragmatisme. Donc on reconnaît par les actions, les personnes, l'action est plus importante que la réflexion, modèle la réflexion, et la solidarité est la chose la plus importante qu'on puisse avoir dans un système social. Donc, il théorisait la prévalence de la solidarité sur l'objectivité et de la démocratie sur la philosophie. Là, on pourrait dire que c'est la grande tradition que de William James Dewey, et puis justement, on arrive à Rorty. J'ai dit que c'était surtout quelque chose qui était important dans le milieu académique, et ceci n'est pas irrélevant. Parce que dans un milieu académique, on suppose que les gens sont obsédés par l'objectivité sur leur travail, donc on peut rappeler l'importance de la solidarité, et on peut faire ça sans courir le risque que quelqu'un dépasse les limites de l'objectivité et de la vérité. C'est-à-dire, on peut dire à quelqu'un qui passe sa vie à la recherche de la vérité, écoute, c'est pas assez, c'est plus important la solidarité. Mais si quelqu'un, par exemple, ne passe pas sa vie dans la recherche de la vérité, trouver un philosophe qui te dit que la solidarité est plus importante que la vérité, ça peut être un beau passe-partout, parce que, par exemple, la mafia, c'est un illustre exemple d'une société où la solidarité est plus importante que la vérité. Mais je crois que, évidemment, le parrain n'a pas lu Rorty. Peut-être, qui sait, mais on sait que il était la famille de plus en plus intégré dans le système de vie américain. Donc, on peut imaginer le neveu du parrain en lisant Rorty à Stanford. Mais, tout de même, il faut remarquer que ceci se passait dans l'idée d'une émancipation, c'est-à-dire le principe qui était à la base de cet appel à l'ironisation, à la désublimation et à la déobjectivation était le souci d'une croissance humaine par l'intermédiaire d'une émancipation. Donc c'était un désir proprement des Lumières. Mais il se trouve que c'est bizarre, puisque normalement, les philosophes ont des théories qui ne se réalisent pas. Platon avait une théorie qui ne s'est pas réalisée. Le bizarre du postmodernisme, c'est que ces théories se sont réalisées, mais d'une façon perverse. C'est-à-dire, par exemple, le populisme, c'est justement ironisation, désublimation et déobjectivation. Donc, en effet, on pourrait dire, mais écoutez, alors le populiste et le post-métaphysicien des nos temps, et en plus, évidemment, on retrouve ceci aussi dans la post-vérité. Alors, à part la prémisse postmoderniste, donc le cadre philosophique où se trouve la chose, que j'ai rappelé justement seulement pour faire remarquer comme des types de théories que peuvent marcher dans un endroit limité et qui acceptent normalement un standard de vérité partagée, peuvent devenir extrêmement dangereuses lorsqu'ils se diffusent. C'est-à-dire, le changement du quantitatif en qualitatif, c'est très évident dans ce cas. En plus, on pourrait quand même dire, bon, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la post-vérité ou dans le populisme, puisque, au fond, c'est toujours la même chose. Il y a eu toujours le mensonge en politique. La politique présuppose le mensonge, nil subsole novi. Néanmoins, je voudrais dire qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil et que c'est quelque chose de nouveau fait aussi qu'il y a une différence entre le populisme et la post-vérité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une différence entre, disons, le populiste des années 80 et la post-vérité d'aujourd'hui. Et donc, c'est ici qu'on entre, disons, dans la théorie. Qu'est-ce qui est changé entre le post-moderne, le populiste et la post-vérité? Commençons par ce qui n'a pas changé. Vous voyez Neville Chamberlain, c'est une photo fameuse. Neville Chamberlain, le premier ministre anglais revenant de Munich après la rencontre avec Hitler, qui montre ce bout de papier sur lequel Hitler avait écrit l'Angleterre, l'Allemagne n'a pas intention de faire la guerre à l'Angleterre, signé Hitler. Il était très content de ce type de garantie, cela n'a pas marché tellement bien. Apparemment, on avait fait aussi des plats de ce qu'on appendait au mur avec cette image dans les maisons anglaises, peut-être sous les attaques des U2, il y avait le Chamberlain qui garantissait pour Hitler. Tout de même, le fait qu'il montre ce bout de papier révèle l'importance des documents dans notre société. On ne peut pas imaginer une société sans documents, et même les ainsi dites sociétés sans écriture, il faudrait bien savoir si vraiment sont sans écriture, déterminer quand est-ce que commence une écriture, c'est compliqué. On peut dire plus ou moins quand commence l'écriture alphabétique, par exemple, ou les idéogrammes, mais en régressant de plus en plus, il est très difficile de déterminer un moment précis où commence l'écriture. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de définir une société sans écriture. Tout de même, même les sociétés ainsi dites sans écriture ont des rites, ont des tatouages. C'est peu pratique, mais se tatouer, c'est substituer ce qu'on a maintenant dans nos poches avec une carte bancaire ou quelque chose comme ça. Mais comme on n'a pas de ce type de moyens, on est contraint de se tatouer. Donc, maintenant, on peut faire deux choses ensemble, mais quand même, en principe, l'une substitue l'autre. Alors, c'est pour ça que j'avais suggéré que la loi constitutive des objets sociaux, des choses type les conférences, imaginez cette conférence sans documents et sans mémoire de votre part et de ma part. Supposons que vous avez le fort suspecte d'être en train de perdre votre temps. Ce suspecte serait encore plus fort s'il n'y avait pas de trace de tout ce qui se passe ici. L'expérience mentale pour montrer comment c'est important ce type de l'inscription, c'est un mariage. Imaginez un mariage entre deux malades d'Alzheimer et avec tout le monde autour qui est amnésique et tous les documents qui s'effacent. Le jour suivant, les deux se trouvent et disent « Bon, pourquoi ?» Le mariage comme objet social disparaît complètement parce que l'existence du mariage est tenue en vie par l'inscription sur des papiers et dans la mémoire des participants à l'acte social. Les philosophes qui ont parlé d'actes de langage dans le siècle passé en disant que, justement, ces actes de langage, par exemple, lorsque je dis « la séance est ouverte, j'appelle, je baptême ce bateau Queen Elizabeth » ou « je parie que demain il va pleuvoir », ce sont les exemples très anglais que fait John Austin, avait découvert que ce type de performance ne se borne pas à décrire les choses, mais les construit des objets nouveaux, c'est-à-dire construit une obligation, un mariage, le nom donné à un bateau, etc. Donc ce sont des choses importantes. Mais il avait sous-estimé le fait que cet acte, s'il n'est pas inscrit, enregistré, demeure un flatus vocis, va disparaître. Donc c'est pour ça que la société est contrainte à avoir tellement de systèmes d'enregistrement. L'enregistrement, c'est la condition fondamentale de la société qui fait deux types de documents. Les documents forts qui sont l'inscription d'actes, c'est-à-dire on crée effectivement quelque chose de nouveau. Et puis il y a les documents faibles que sont les enregistrements des faits, c'est-à-dire si on enregistre le climat à Paris le 7 mars, c'est un fait. Le climat n'est pas produit par l'enregistrement, mais il y a un document qui nous dira dans 100 ans quel temps il faisait à Paris le 7 mars. Et tout cela nous signale l'importance de l'enregistrement pour la constitution de la réalité sociale. Tenez ce point parce que je reviendrai à la post-vérité pour montrer comment tout ceci cause la post-vérité. D'abord, qu'est-ce qui change? L'enregistrement, là, j'ai un petit exemple empirique qui est tiré de mon livre sur le portable qui peut démontrer pourquoi l'enregistrement est tellement important. Puisque, à l'origine, le portable était juste un fixe auquel on avait coupé le fil, qui se prêtait aussi à des performances singulières ou théologiques comme celle-ci, mais c'était simplement un enregistrement. Très tôt, néanmoins, sont apparues des lettres. Donc, l'appareil pour parler s'est transformé dans un appareil pour écrire. Pourquoi? Et en plus, vous savez, les gens qui avaient pensé d'insérer les lettres ne croyaient pas que ceci aurait été la façon principale de communiquer maintenant. Donc, personne ne prévoyait ça. Et non seulement, donc, parler devient écrire, et écrire devient enregistrer. Là, ce n'est pas un Nokia plus primitif, mais c'est une bière faite au Ghana à forme de Nokia. On peut se demander pourquoi se faire enterrer dans une bière à forme de portable. Cercueil, pardon. Justement, une bière... Oui, non, mais je me souvenais qu'il y avait la bière du pêcheur, c'était un jeu de quelques écrivains. Bon, en tout cas, excusez-moi. Il me manque les fondamentaux. Ignorer comment le cercueil. Alors, ce cercueil fait à forme de. Là, la vie est un peu comprimée, mais devait imaginer un peu un cercueil plus agile. Mais tout de même, pourquoi se faire enterrer dans un cercueil? Là, je n'ai pas de réponse. Mais on peut trouver des réponses à un autre fait qui est arrivé, c'est-à-dire se faire enterrer avec un portable. Ça s'est passé, par exemple, l'acteur Tony Curtis s'est fait enterrer avec son iPhone 3 dans son cercueil. Et on peut se demander pourquoi. Ceci que on sait très bien que l'iPhone 3 avait la batterie qui durait très peu de temps. En plus, là où il s'est trouvé, il n'y avait vraisemblablement pas de champ. Et surtout, il était mort. Donc, il n'y avait aucune raison de communication. Et ceci démontre le point. Il n'avait aucune raison pour communiquer. Mais il a porté ces grands appareils d'enregistrement dans lesquels, comme le pharaon, il y avait toute sa vie, ses contacts, ses relations sociales, les objets sociaux qu'il avait construits et qu'il a portés avec soi aussi. Il y a un fondement. En plus, apparemment, l'enterrement a eu lieu à Las Vegas. Et d'abord, il y a eu une cérémonie dans un hôtel néo-égyptien qui s'appelait Luxor. Donc, la continuité égyptienne se manifeste tout de même. Mais ceci démontre quelque chose de très important, c'est-à-dire ce n'est pas essentiellement un instrument de communication ni de communication orale. Très vite, ce document, sans qu'il y ait une intentionnalité dans les créateurs, les inventeurs, les projectistes, se transforme dans un instrument d'enregistrement. Et maintenant, c'est l'enregistrement qui est la base, l'essence de ce type d'objet. Bien. Ah ben, là, il y a une autre chose qui n'a rien à faire, mais c'est un tombeau à forme de portable vieux style, mais qui peut donner un nouveau signifié à la question fondamentale qu'on pose au portable TU, puisqu'il y a. Il y a un sens dans lequel c'est même trivial, mais qui sait. Donc, mais c'est que. Je voulais souligner, c'est que cette importance des documents, l'importance de l'enregistrement, l'effet que des médias qui étaient conçus pour communiquer se transforment par une espèce de force intrinsèque qui répond aux structures de la réalité sociale, se transforme dans un instrument d'enregistrement. Alors, la situation produite par la croissance de l'enregistrement crée la situation de la documédialité, c'est-à-dire cette documentalité qui se diffuse, qui apparaît partout, c'est-à-dire toutes nos transitions sont enregistrées sur nos médias, et en plus, on peut devenir broadcaster de son propre hamburger ou n'importe quoi. Donc, on sait très bien la crise des journaux, la crise de la communication. C'est lié au fait que maintenant, la production de nouvelles est à la portée de tout utilisateur d'un objet. Donc, la situation, je l'appelle documédialité, justement, puisque c'est une espèce d'amplification de cette structure qu'autrefois était rare de la documentalité. En plus, le fait que la médialité n'est plus le privilège ambigu d'un pouvoir, le pouvoir d'information, mais ça devient la base commune de la réalité sociale. Donc, il y a une espèce de superposition entre la réalité sociale et la réalité médiale, qui est faite par l'explosion de l'écriture, justement. Dans les siècles passés, on disait que l'écriture allait disparaître. Par contre, ce qui s'est passé est exactement l'inverse. On écrit tous les jours comme des forcenés. L'explosion de l'archive, c'est-à-dire l'archive autrefois, c'était un endroit rare, localisé. Vous savez très bien où c'était. Et volontaire, c'est-à-dire il fallait faire des archives. Par contre, maintenant, c'est quelque chose de dispersé dans l'ambiant, on peut dire, et présent dans tous les instants. Le fait que si quelqu'un veut voir, vérifier quelque chose de sa propre vie, recourt à son portable, démontre comme son portable est l'archive vivant, pour ainsi dire, de sa vie. Et donc l'explosion des documents, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte comme document maintenant? Sans doute, il y a les documents qui sont garantis par les notaires, mais par exemple, c'est quoi un tweet? Et je n'ai pas de mal à imaginer que le jour viendra où une déclaration de guerre sera faite avec un tweet. 140 caractères sont plus que suffisants. Et alors, l'effective déclaration de guerre, c'est quand? C'est justement au moment où, par ce document qui est créé comme ça, et mais en plus, il y a des documents qui sont préterintentionnels, c'est-à-dire lorsqu'on utilise contre toi un mail ou un SMS qui... Et donc, paradoxalement, la modernité, elle est très solide, elle n'est pas liquide comme insistait le grand sociologue Bauman qui est récemment disparu. Et on est obsédé par des responsabilités puisque tout ce qu'on dit reste enregistré. Disons qu'il y a une liquidité idéologique, c'est-à-dire la seule manière d'échapper à cette... pieureuse rigidité, c'est justement le fait qu'il y a tellement de documents que les gens se confondent non plus. Et donc, il y a cette espèce de crise de vérité qui peut expliquer la post-vérité, non comme une attitude idéologique, non seulement comme une attitude idéologique, mais... Puis, en plus, je ne suis pas sûr, mais ça, c'est une affirmation naïve, que Trump soit vraiment convaincu de mentir lorsqu'il ment. Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire, peut-être qu'il y ait quelqu'un de tellement convaincu de ce qu'il dit, qu'il fait, qu'il ne pense pas que c'est un mensonge. Il pense que c'est une manière alternative de décrire la vérité, et se produit par d'abord un affaiblissement, je trouve, de la différence entre document fort et document faible. C'est-à-dire, un document fort, je peux dire je peux faire un acte disant quelque chose et qui compte comme document fort, mais je peux, avec mon autorité, faire passer un document faible, c'est-à-dire un document fort, c'est-à-dire l'expression de ma volonté, comme si c'était un document faible, c'est-à-dire la relation de faits qui se sont passés. Dans un certain sens, disons, lorsque Trump nous dit qu'il y a eu un attentat en Suède, il veut créer un état d'anxiété, et là, c'est l'aspect fort de son. Mais il se présente comme si c'était la relation d'un fait qui s'est passé, c'est-à-dire en Suède, il y a un attentat, allez vérifier. La viralité, le fait que la chose peut passer bien plus vite qu'autrefois, la proverbialité, pour ainsi dire, là, c'est la différence par rapport à quelqu'un comme Berlusconi, puisque de Berlusconi, on disait il est un menteur. Rarement, de Trump, on dit il est un menteur, parce que Trump nous dit, j'ai entendu cette nouvelle, on dit que, Donc, c'est toujours comme une relation de quelque chose qui a à faire avec d'autres. Il y a d'autres sources. Il fait référence à des sources, l'hyperarchivialité, c'est-à-dire le fait qu'il y a tellement d'archives qu'il devient impossible de vérifier la vérité, la fausseté de quelque chose. Et même si quelque chose est complètement fausse, imaginons quelqu'un qui nous dit que la Lune est faite de fromage. Bien, on trouvera des dizaines de sites qui affirment que la Lune est faite de fromage ou qui nient que la Lune est faite de fromage en répétant donc la thèse que la Lune est faite de fromage. Et en plus, par exemple, une certaine, disons, indifférence à la vérité, ça c'est important. On découvre ce qu'on avait toujours soupçonné, c'est-à-dire que les humains ne sont pas foncièrement intéressés à la vérité, mais sont plutôt intéressés à l'itération de leurs propres opinions, à l'affirmation de ses propres opinions. Par exemple, on m'a montré un large débat qui s'est passé sur le web portant sur la question si Umberto Eco, le philosophe écrivain italien, avait vaincu ou pas le prix Nobel. Alors, ce n'est pas une question de savoir si Zarathustra, le prophète persan, avait ou pas lu le Zen d'Avesta. Qui sait, c'est une chose très lointaine, mais au fond, pour voir, il suffit de consulter une liste de prix Nobel. S'il n'y a pas Eco, en effet, Eco n'est pas là, il n'a pas vaincu le prix Nobel. Mais par contre, il y avait ce débat, puisque les gens étaient plus contents de dire « Non, mais j'ai raison, il a vaincu. Non, non, écoute, renseigne-toi, il n'a pas vaincu. » Donc, être mis en mouvement est plus important que le savoir. Et donc, ceci vaut pour la vérité, pour l'économie, pour le droit. Voilà, on est à la perspective. Que faire pour ces scénarios, pour cette scène que j'ai décrit? Je suggère trois lignes disons, d'intervention. La première porte sur la technologie. C'est-à-dire, on a, paradoxalement, bien que le web soit partout dans notre vie, on a une image lacuneuse, je crois, du web. On a ce qu'on pourrait appeler un web ptolémaïque, qui suppose que le web, c'est d'abord un instrument de communication, comme si c'était plus ou moins comme la télé, qu'il véhicule essentiellement des informations, que le monde du web est le monde virtuel. Maintenant, c'est moins clair, mais n'oublions pas que jusqu'à il y a peu de temps, ce qui se passait sur le web n'était pas la réalité, c'était quelque chose qui se passait ailleurs, que le web est essentiellement un instrument d'émancipation. On apporte souvent le cas du printemps arabe, etc. Mais il se trouve qu'on peut apporter pas mal de contre-exemples. Et justement, ce que j'ai apporté, ce sont en bonne partie des contre-exemples. Que c'est l'effet d'une construction, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il faut que le web fasse ceci, cela, et que c'est un moyen de transparence. Or, je ne serai pas là à nier qu'il y a effectivement un moyen de transparence dans le web, c'est auquel faisait référence Dennett, qui a été évoqué au début de cette conférence. Mais cette transparence est problématique, c'est-à-dire c'est une absence de privacité que ne nous protège pas contre le mensonge. C'est-à-dire, les choses sont visibles, ce qui apporte pas mal de problèmes aux gens, mais en même temps, Il y a plus de choses cachées que des choses visibles. Je veux dire, un peu comme un train peut toujours en cacher un autre. Ah oui, et justement, qu'il y a une intentionnalité derrière là, mais je peux pas. Me reste 3 minutes et 45 secondes. Par contre, il vaudrait mieux, pour comprendre cette, disons, révolution documentaire, de prendre un web copernicien. D'abord, imaginons que, comme j'ai essayé de montrer, la base de la puissance du web consiste dans l'enregistrement, et c'est pour ça que le web est devenu tellement puissant, et sans que personne de ses inventeurs avait prévu qu'il devait devenir comme ça. N'oublions pas que qui a inventé le web pensait que c'était un instrument de communication entre savants pour se présenter les découvertes scientifiques. Produit d'abord des actions, c'est-à-dire plus que des informations, ce sont des actions qui sont produites par le web, même seulement l'action de mettre un like, répondre à quelqu'un. Et cette action minimale, c'est une action plus générale, le fait que les messages nous peuvent rejoindre dans n'importe quel endroit. Donc, en plus, il est réel. Ce qui est dans le web, c'est la réalité. Non, je ne dirais pas la réalité elle-même, mais ça fait partie profondément de notre réalité, exactement comme fait partie de notre réalité, notre ensemble psychophysique que nous sommes. Produit une mobilisation. Là, je ne reviens pas sur le sujet du livre qui a été évoqué, mais au fond, le livre partait d'une observation banale. Il m'était arrivé une fois, effectivement, de me réveiller la nuit entre vendredi et samedi, regarder le portable pour voir quel était-il et découvrir qu'il y avait un mail. Alors, j'ai lu le mail. C'est un mail de travail, je réponds au mail et je suis en train de travailler à 3 heures du matin entre le vendredi et le samedi. Alors, c'est effectivement, c'est là l'effet de mobilisation. C'est une émergence, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se produit sans qu'il y ait une intentionnalité véritable à sa base. Il y a cette opacité fondamentale. Le web n'est pas transparent, peut créer des effets de transparence, mais il est par exemple opaque à la plupart de ses utilisateurs. Et ceci en plus n'est pas seulement une insuffisance technique, c'est le propre de tout, disons, de tous les objets sociaux. C'est-à-dire, les objets sociaux sont des choses pour lesquelles nous avons des compétences, mais donc, sauf être des juristes, des sociologues, nous n'avons pas la clarté de ce qui se passe dans une cérémonie, dans un mariage, dans un échange de bourse. C'est pas clair. Par exemple, justement, le philosophe John Searle a dit un acte aussi simple que entrer dans un café, commander une bière, boire la bière, payer et sortir, cache une quantité immense. Voilà. Excusez-moi. Non, si vous m'autorisez, je conclue, mais je ferai très vite. Cache une immensité de choses. Donc, L'obscurité, l'opacité du web, ce n'est pas seulement l'opacité de la technique, c'est aussi l'opacité de la société en général, pas seulement de notre société, de toutes les sociétés. Les sociétés sont quelque chose, les choses les plus près que nous avons, savoir qu'est-ce que c'est qu'une promesse. On fait des promesses continuellement, on maintient parfois les promesses, mais par exemple, savoir exactement ce que c'est une promesse, c'est une chose qui obscure à la plupart des gens et aussi parfois aux philosophes. Longtemps, les philosophes, grands philosophes comme Hume, ont dit que la promesse est la manifestation d'une volonté. Non, ce n'est pas simplement une manifestation d'une volonté, puisque après que tu as fait ta promesse, tu ne peux pas changer ta promesse sur la base de ta simple volonté. Et l'essence de la promesse, c'est ceci. Voilà. Comme j'ai promis de terminer... Je vous épargne l'épistémologie, je vous laisse simplement une réflexion sur l'ontologie. Ce que je dis sur le web est extrêmement, disons, critique, dans le sens que je ne dis pas que le web est l'utopie. Je partage ce type d'attitude avec nombreux commentateurs ou non-commentateurs, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent dans leur vie sur le web sans éprouver la nécessité d'affliger les autres avec ses propres idées, comme il m'arrive. Mais souvent, on dit « le web, c'est un effet du capital, c'est la manifestation contemporaine du capital » qui mobilise, qui comporte une mobilisation du travail, une exploitation, on dit souvent ceci sur le web, et on suppose que l'humain, comme le supposait Marx, est un animal rationnel, qui est un animal libre et qui est un animal aliéné par la société. Donc, ce type de cadre d'explication de l'action du web sur nous-mêmes, normalement, se base sur cette vision du capital. Le capital, c'est intéressant puisque c'était une manière par laquelle Marx a été capable de définir des structures permanentes du monde social à partir d'un procès techno-social qui était en train de se réaliser dans le moment où il écrivait. Mais je trouve très difficile de transposer ces caractères littéralement dans le monde du web, puisque ce que justement j'ai commencé en promettant une raison pratique et maintenant j'ai fait une comparaison immodeste entre la documentarité et le capital. Donc, on pourrait faire mieux. Mais d'abord, on voit que ce n'est pas tellement un travail, mais c'est la mobilisation, le caractère fondamental de notre époque. On dit en même temps que les gens ne font rien, sont désœuvrés, même d'une façon involontaire, mais en même temps, on a cette image de mobilisation continuelle. Plutôt que l'exploitation, le caractère fondamental, c'est la reconnaissance, le désir de reconnaissance. Ça a été étudié, évidemment, par philosophes, sociologues. Ce n'est pas moi qui découvre, mais ce n'est pas l'exploitation. Qui poste son hamburger dans le web n'est pas exploité, veut être reconnu. C'est une autre chose, très noble, mais différente. On ne peut pas traiter ce qui veut être reconnu comme s'il était inexploité. Un animal mobilisé, bien plus que rationnel. On découvre très bien pourquoi on veut être mobilisé et pour aller vite, on donne tellement peu d'importance à la vérité. Si n'était que vraiment la vérité n'est pas aussi importante, justement en disant ne donnez trop d'importance à la vérité, Rorty se référait aux professeurs qui sont, disons, des soi-disant professionnels de la vérité, mais la plupart des gens n'avaient pas tellement ce besoin de rationalité, des animaux soumis. L'attitude, non, pas vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai par exemple ce bracelet qui me dit combien je marche et de calories j'utilise, qui est un instrument de contrôle qu'autrefois était assigné aux prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers avaient des choses comme ça, et maintenant c'est en vente et je l'ai payé avec mon argent et j'ai acheté ma servitude volontaire, donc je rentre pleinement. Et surtout un animal révélé, c'est-à-dire ceci se révèle à travers le web. Le web n'est pas une aliénation d'une nature humaine. On découvre mieux ce que nous sommes par la technique. Ceci s'est passé par toutes les techniques qui ont caractérisé l'histoire humaine, puisqu'on ne peut pas concevoir un humain sans technique, et donc se passe avec une évidence qui est encore sous-estimée parce que justement on a des préjugés, des fausses lectures du web et du capital à l'heure actuelle. Merci.